France Culture.
Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, première de deux émissions aujourd'hui sur Kandinsky et la mystique orthodoxe. À l'occasion de la parution aux éditions première partie d'un ouvrage réunissant deux textes de Vassili Kandinsky intitulés « Du spirituel dans l'art » et « Du matériel dans l'art » présenté par Philippe Serres, philosophe, critique d'art et grand connaisseur de l'œuvre de Kandinsky. Philippe Serres, bonjour.
Bonjour cher Alexis.
Ce livre n'est pas le premier que vous consacrez à Kandinsky, artiste que nous connaissons comme le père de l'art abstrait et que nous découvrirons en votre compagnie en tant qu'artiste inspiré de la mystique orthodoxe. Nous allons commencer, si vous voulez bien, par quelques éléments biographiques sur lui.
Ce livre est un vieux rêve parce qu'il s'agissait d'abord de republier du spirituel dans l'art, que j'avais déjà publié en première édition en 1969, puis ensuite en 1989. Le projet, le rêve, c'était de publier une édition annotée. Mais j'ai profité d'une opportunité qui m'était offerte pour publier cette édition en y adjoignant un texte qui est un grand inédit, qui est un texte que Kandinsky a laissé, et qui s'intitule « Du matériel dans l'art ». Donc ça fait une sorte de symétrie comme les deux moitiés d'un fruit et qui soulève beaucoup de questions sur le plan à la fois de la théorie de l'art et sur le plan philosophique. Joindre ces deux textes était également répondre à un rêve de Kandinsky qui était de publier son traité de l'harmonie. Il en a donné la première partie dans « Du spirituel dans l'art » et il a esquissé les fondements de la deuxième partie avec « Du matériel dans l'art ». Donc réunir ces deux textes et les accompagner d'une analyse donc de la pensée, de la vie, de l'œuvre de Kandinsky et les accompagner également d'une interprétation de son œuvre, mais d'une interprétation de son œuvre orientée vers le message chrétien était un projet évidemment très très riche. La vie de Kandinsky est une vie tout à fait intéressante. Il est né à Moscou en 1866. Il est le fils d'une dynastie de marchands et un peu plus loin de pirates exilés aux limites de la Mongolie. D'ailleurs, une de ses grand-mères était une princesse mongole. Ce qui fait qu'il représente une sorte d'union entre la Russie et l'Extrême-Orient. Et il était passionné par la pensée chinoise. Et il n'a jamais pu se rendre en Chine, mais c'était également un de ses projets.
Il avait une mère allemande aussi, je crois.
Balte.
Ah oui.
Et il a été éduqué par sa tante, qui est restée jeune fille, qui s'appelait Edith Elisabeth Titcheva, à qui est dédié le livre du spirituel dans l'art, et qu'il a éduqué sa tante à la fois en allemand et en russe. Donc il est déjà bilingue dans son éducation, dans ses langues maternelles, et évidemment, comme tout bon russe, il parlait le français admirablement. Et il a laissé des textes dans ces trois langues, et des textes d'une grande richesse et d'une grande précision, parce que il a eu une première carrière universitaire, donc c'était un professeur de droit et d'ethnographie extrêmement bien formé, puisqu'on lui a proposé à ce prix sa thèse une chaire à l'université de Dorpat, c'est-à-dire Tartu, chaire à laquelle il a renoncé pour se consacrer à la peinture à 30 ans. C'était sa vocation qu'il n'avait jamais osé envisager, et puis il a sauté le pas. Voilà, donc cette insertion lui donne une grande ampleur de vue, et la manière dont il maniait les langues lui a permis d'être un véritable passeur et de se trouver au cœur de ces avant-gardes qui étaient à la recherche de la vérité en art, que j'ai appelé les avant-gardes radicales, c'est-à-dire tout ce qui est autour de l'abstraction et autour du dadaïsme. Donc première existence en Russie, entre Moscou et Odessa. Mais Moscou, c'était, il dit que c'est son diapason de peintre. le coucher de soleil sur la ville de Moscou, et Odessa, qui est une ouverture vers la mer, dans laquelle, et puis Kiev aussi, bien sûr, qu'il admirait beaucoup. Cette première partie de sa vie s'arrête brusquement en 1896, au moment où il décide de devenir peintre, renonçant à sa chaire de professeur, et il part à Munich. Munich, à l'époque, c'était la ville d'art, vous voyez, c'était la Kunststadt. Et puis, comme il était extrêmement musicien, il pensait qu'il avait l'occasion, là-bas, de suivre des concerts, ce qui a été le cas, bien entendu, puisque c'est là qu'il a rencontré Arnold Schönberg, nous reviendrons sur ce point. Et donc, ça a été la deuxième partie de sa vie, qui a duré jusqu'en 1914, où il a été brutalement chassé hors de son rêve munichois par la guerre, et séparé de tous ses amis, séparé de Franz Marc, séparé de Hugo Ball, qui fondera le cabaret Voltaire et donc qui est à l'origine de Dada, qui est très inspiré par les idées de Kandinsky. Et là, il rentre en Russie, et il y a cet intermède révolutionnaire, n'est-ce pas, de 1914 à 1921, où il participe non pas aux activités révolutionnaires, mais au projet d'une culture pour le peuple. Il s'occupe des musées de province, etc. Il enseigne à Linkouk, il est au cœur de la recherche. C'est là qu'il rencontre évidemment Pavel Florensky, qui était son collègue à l'université de Moscou. Il retrouve Pavel Florensky et qu'il retrouve son cousin Bulgakov, donc Serge Bulgakov.
Qui est un théologien très connu après en France.
Absolument.
Qui à l'origine n'était pas théologien.
Qui était le fondateur de l'Institut Saint-Serge. Et le père Pavel Florensky, qui était le Pascal russe et qui a été en grande partie à l'origine de la redécouverte des icônes de Saint-André Roublev, Saint-André l'iconographe. Et là, bon, en 1921, il se trouve confronté évidemment à l'idéologie, et il profite de la première occasion d'une mission qui lui a été donnée, comme il parlait beaucoup de langues, en Allemagne. Il va à Berlin, participe à l'exposition internationale, et il reste en Allemagne, et c'est là qu'il est appelé par Walter Gropius au Bauhaus. Et il retrouve son ami clé, son ami très cher, qu'il avait déjà connu à Munich et qui habitait la même rue que lui. Et il va rester au Bauhaus jusqu'en 1933. Il fait le Bauhaus de Weimar et le Bauhaus de Dessau. Et puis en 1933, évidemment, devant la montée du nazisme et le fait que son art, comme celui de tous ses amis, était considéré comme un art dégénéré, un art de Kunst, il s'enfuit en France, bien entendu, la France accueillante à ce moment-là pour la première émigration. Et c'est là qu'il est accueilli par Marcel Duchamp, honoré par les peintres de sa mouvance, et qu'il s'éteindra en 1944. Pas très reconnu par le public français, parce que on ne pénètre que difficilement ses toiles. Et j'expliquerai pourquoi, si vous voulez. Donc là, il s'éteint en 1944, entre les bras de son épouse Nina Nikolaïevna, que j'ai rencontrée dans les années 60, et qui a beaucoup facilité mon entrée dans le mystère Kandinsky.
Il faut dire que ça fait très longtemps que vous travaillez sur lui, et récemment je vous ai entendu dire, ça fait 30 ans que je travaille sur Kandinsky, et plus que ça peut-être, et tous les jours je découvre quelque chose de nouveau chez lui, voilà.
Oui, ça fait plus de 30 ans, ça fait 60 ans.
Ah oui, voilà,
imaginez,
2 fois 30, oui.
Parce que j'ai commencé, j'étais tout jeune philosophe,
ah oui.
J'ai commencé à travailler sur ça, parce que j'étais évidemment fasciné par un texte tel que du spirituel dans l'art.
Alors, c'est le moment de la pause musicale. C'est vous qui avez choisi les musiques pour ces deux émissions. Et pour celle-ci, vous avez choisi un extrait du Quatuor numéro 2. C'est un extrait du premier mouvement d'Arnold Schönberg. On l'entend par le Quatuor de la salle et on revient à notre discussion. Thank you. Et après cet extrait donc de Schoenberg, en parlant de Kandinsky, Kandinsky est la mystique orthodoxe. Alors maintenant, nous en venons à notre, au cœur vraiment de notre émission, la mystique orthodoxe. Alors, vous avez déjà donné les grandes étapes de sa vie. On le comprend bien, il vient de Russie, donc il a été en contact avec la religion orthodoxe, j'imagine, très, très, très vite. Hein. Et puis, il a voyagé beaucoup, etc. Alors d'abord, est-ce qu'il garde toujours un rapport avec l'Église officielle, telle qu'il est aussi en France quand il est venu? Et puis, on va voir aussi de quelle manière cette religiosité s'exprime également dans son art. Parce qu'il est connu comme le père de l'abstraction, et après, on est étonné de savoir qu'il a été inspiré directement par la tradition orthodoxe.
C'est un grand disciple de la tradition hésychaste, de la tradition philokalique. Et ça, c'est très important. Dans quasiment tous ces grands tableaux de la période dite géniale, c'est-à-dire entre 1906, mettons, et 1914, on voit figurer Saint-Nil de la Sorka, qui est le fondateur de la spiritualité hésychaste en Russie. On le voit partant de sa barque, c'est-à-dire quittant le monastère pour le désert, n'est-ce pas? Il est également très intéressé par la tradition de la théologie de la lumière, c'est-à-dire par cette longue tradition de mystiques orientaux, de pères orientaux, avec Saint Philotée le Sinaïte, etc., Saint Siméon le Nouveau Théologien, qui considérait que la sixième béatitude n'est pas à prendre au sens métaphorique, mais à la lettre. Et ça va jusqu'à Saint Séraphin de Sarov. C'est-à-dire que lorsque Jésus dit « les cœurs purs verront Dieu », ça signifie que la pureté du cœur, autrement dit l'ésukia, le renoncement, l'attention neptique, le renoncement, nous conduit à faire place dans notre cœur pour accueillir la lumière divine. Et là, nous avons une tradition de grands saints mystiques qui attestent avoir vu cette lumière. Et donc, qui ne sont pas, si vous voulez, des gens, qui ne sont pas des fantaisistes, vous voyez. Ce sont des théologiens extrêmement sérieux, extrêmement prudents, et leur regard mystique est un regard qui a été extrêmement contrôlé, vérifié. Le principe de la vérification est fondamental dans cette tradition. Et également chez Kandinsky, j'aurai peut-être l'occasion de d'y refaire allusion, j'ai publié un livre qui s'appelle « Kandinsky et l'inspiration », de Kierkegaard à Kandinsky, la question de l'inspiration, où se posait justement cette question, comment se vérifie l'intuition mystique, la vision mystique. Et donc que la lumière divine se manifeste aux yeux du mystique. Alors il y a eu la querelle, évidemment la querelle palamite, puisque le moine Barlaam critique cette vision en expliquant que Dieu ne peut pas être à la fois créateur et créature, c'est-à-dire lumière. À quoi Grégoire Palamas répond avec son génie habituel que le Dieu a une essence divine, invisible et imparticipable, et que la lumière n'est que son énergie manifestée aux yeux des hommes. Et alors à partir de là, ça va nous donner l'idée, si vous voulez, que l'origine de la lumière est en Dieu et que la lumière se diversifie selon la manière dont l'accueille l'âme humaine. Et c'est la théorie des couleurs de Kandinsky. Et quant à Florensky, il va réfléchir, lui, entre le lien entre la continuité de cette origine et la discontinuité de l'éparpillement en couleurs. Bon, ce sont des textes absolument magnifiques. Ils, naturellement, sont explicités dans le livre et dans la théorie des couleurs. Alors, la mystique orthodoxe, c'est également le passage de la prière extérieure à la prière intérieure. Et ce mouvement, c'est la prière du cœur, n'est-ce pas? Ce mouvement n'est pas indifférent au passage de la figuration à ce qu'on appelle d'un terme impropre, d'ailleurs, que récusait aussi bien Kandinsky que Théo van Doesburg, que le philosophe Alexandre Kojève, qui était le neveu de Kandinsky. Nous sommes là dans une sorte de famille, de communauté. Et donc, l'abstraction, n'est-ce pas, est une sorte de passage au discernement du cœur, discernement des réalités intérieures. Voilà, mais nous reviendrons sur ce point si vous voulez.
On va même insister, si vous voulez, là-dessus, parce que on voit que là, la mystique, alors vous avez fait évidemment allusion à la querelle palamite du XIVe siècle, mais ici, nous sommes au XXe siècle. Et on voit que, malgré les siècles qui passent, etc., ces idées du XIVe siècle, cette théologie très forte, inspire l'artiste et lui permet de faire le pas pour aller vers l'abstraction. Alors, quelques mots encore sur l'abstraction comme résultat de cette réflexion théologique, j'allais dire.
Il faut mentionner aussi un point, c'est qu'en 1906, nous avons la canonisation de Saint-Séraphin de Sarov, et que c'est le moment où est publié l'entretien avec Motovilov. Entretien dans lequel Motovilov atteste de la transformation lumineuse de Saint-Séraphin, qui lui dit en même temps que s'il est devenu lumière, c'est-à-dire s'il s'est mis à refléter la lumière divine, c'est pour lui montrer à lui, Motovilov, que la vision de la lumière divine n'est pas réservée aux grands mystiques, mais est pour tous les hommes. Et ce moment très important va être déterminant, je crois, chez Koninsky et chez Florensky pour cette approche. Mais alors, le passage de l'abstraction, si vous voulez, c'est un double paradoxe, en fait. C'est à la fois une nouveauté qui rejoint une très ancienne tradition, hein, parce que, et je crois l'avoir montré dans mon livre « Beauté et vérité, nouvelle théorie de l'art » qui est paru l'année dernière chez Salvator, en analysant l'icône de Saint-André Roublev, l'icône des trois anges, la phylloxénie d'Abraham, qu'on appelle vulgairement la trinité de Roublev, n'est-ce pas ? Et montrer que, en réalité, il y a une abstraction très nette, c'est-à-dire un usage de la résonance intérieure des éléments qui est combinée avec la figuration extérieure. Alors, c'est donc une nouveauté qui rejoint une très ancienne tradition. Et en même temps, ce passage à l'abstraction, c'est quoi ? C'est un retrait de la figuration qui découvre une réalité profonde des éléments de l'art. Autrement dit, ça n'est pas une abstraction ab, si vous voulez, ce n'est pas une privation du contenu, mais c'est un retrait des éléments extérieurs qui découvre le contenu intérieur. C'est un retrait des circonstances qui découvre le sens. Vous voyez, c'est ça le principe de l'abstraction. Et c'est ce qu'il va s'attacher à montrer, à expliquer dans son livre du spirituel dans l'art, et à montrer dans son œuvre. C'est particulièrement évident dans les exemples que j'ai donnés, c'est-à-dire dans la manière dont, à travers l'orage du printemps, se lit la protection divine au sein du déluge. C'est la composition 6. Composition 6 qui est précédée par le fixé sous verre déluge et par l'improvisation déluge. Mais également, une autre image majeure, c'est l'image du coucher de soleil sur Moscou, dont il dit quel est son diapason de peintre, et qui est si impressionnante et si permanente dans son œuvre, mais qui nous conduit à quoi ? À l'image de la grande résurrection, c'est-à-dire au dévoilement absolu. Ce que Saint Isaac le Syrien expliquait qui devait être l'unique objet de notre méditation, n'est-ce pas, la grande résurrection. Et là, nous l'avons, mais déployé dans l'œuvre d'une manière extrêmement impressionnante. Donc c'est ça l'abstraction ad.
Merci beaucoup. Alors, juste pour dire que vous le mentionnez bien sûr dans le livre et il le dit lui-même, ce coucher du soleil à Moscou a marqué sa vie et son œuvre, hein, c'est pas, et se trouve au centre, et vous expliquez comment de là il passe à la résurrection, aux sources de la résurrection. C'est extraordinaire de voir. Il y a plusieurs étapes, je crois, 9 ou quelque chose comme ça, qui, dans sa vie.
Oui, il y a les 9, ouais. les 9 expériences fondamentales.
Fondamentales, mais évidemment celle du coucher du soleil à Moscou.
J'en ai fait le schéma dans le livre.
Tout à fait. D'ailleurs, ce livre, je dis pour nos auditeurs, est un livre extrêmement agréable à lire. Évidemment, il y a le texte de Kandinsky, il y a une introduction faite par vous qui est très éclairante, et puis il y a à la fin une série de tableaux, mais qui pour la plupart, évidemment, sont inspirés directement de la religion, avec des notices que vous avez élaborées qui sont extrêmement édifiantes. Alors, nous sommes obligés d'arrêter cette émission ici, mais nous serons ensemble de nouveau dans 15 jours. C'était Kandinsky et la mystique orthodoxe, première émission aujourd'hui, Le paradoxe de l'abstraction. Philippe Serres, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Kandinsky, aux éditions première partie 2025. En terminant, je voudrais dire aussi qu'il y a, puisque cette période est vraiment dédiée à Kandinsky en grande partie, qu'il y a une grande exposition, Kandinsky et la musique de couleur, qui a lieu à la Philharmonie de Paris et qui va durer jusqu'au 1er février 26, et que Arte aussi a produit un documentaire récemment sur lui, intitulé Kandinsky, voir la musique, réinventer la peinture. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Réalisation François Connac. Prise de son Inès De Bruyne. Vous pouvez réécouter, télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et dans quelques instants, vous retrouverez Solae, le rendez-vous protestant avec Jean-Luc Gadreau.